Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour, notre émission de la semaine est consacrée aux insectes. Vous n'aimez pas les insectes? Vous auriez bien tort. Songez qu'à l'heure où je vous parle, il y en a au bas mot 10 milliards de milliards. Oui, vous avez bien entendu, 10 milliards de milliards qui volettent ou rampent sur la planète. Alors pourquoi entretenir de mauvaises relations avec une telle armée? Et puis, ils ne sont finalement pas si méchants, pas si dégoûtants, pas si répugnants. Tiens, vous vous souvenez du film Microcosmos sorti en 1996? Tout un univers qui s'offrait à nous. On découvrait le peuple de l'herbe. Et la musique classique en regorge. On y trouve en effet des puces comme des papillons, des guêpes et des sauterelles, des moustiques et des grillons, ainsi qu'un très célèbre bourdon. C'était l'inusable vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, un morceau qui a donné lieu à des centaines et des centaines d'adaptations, comme cette irrésistible version signée Ray Martin, à l'orchestration à la fois virtuose et latino. Un bourdon qui ne donne vraiment pas le cafard. Au fait, bourdon, c'est aussi un terme musical. On en trouve notamment dans les musiques traditionnelles. Vous savez, ces notes plus ou moins graves qui tiennent sans s'arrêter sous la mélodie. C'est le principe de toutes les cornemuses. Faire sonner un tuyau mélodique aigu que l'on nomme hautbois, chanteur ou chalumeau, en même temps que des tuyaux plus graves que l'on nomme donc bourdon. Et pour continuer notre parcours entomologique, bien entendu garanti sans aucun néonicotinoïde, intéressons-nous aux liens plus ou moins amicaux qui unissent parfois les hémiptères et les hyménoptères, autrement dit aux cigales et aux fourmis.
La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse? Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
Vous aurez bien sûr reconnu l'inimitable Fernandel qui, en 1957, avait consacré un disque entier aux fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi a d'ailleurs inspiré plus d'une vingtaine de compositeurs classiques, sans compter un nombre encore plus considérable de chansons et autres parodies. Alors je vous propose d'en écouter successivement deux versions, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont vraiment rien en commun. La première date de 1872. Elle est signée du compositeur français romantique Benjamin Godard et l'accompagnement du piano imite en permanence, grâce à un petit motif chromatique dans l'aigu, la fameuse tridulation de la cigale. Pour la seconde, c'est une surprise. Et je ne voudrais pas vous mettre la puce à l'oreille, car comme vous le savez, une surprise, si on dit avant ce que c'est, ce n'est plus une surprise.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous autant chaud,
dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Vous déplaise.
Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant.
Cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant le foie d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, padabadou bayada, à tout venant, padabadou bayada, je chantais, ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise.
Mais oui, c'est bien elle, c'est bien Danielle Darrieux, la plus longue carrière du cinéma français, mais aussi la merveilleuse voix qu'on vient d'entendre. Une version pleine de swing de notre fable du jour, composée et arrangée pour brass band par Joe Moutet. Et juste avant, c'était le baryton grec Tassis Christoyannis qui interprétait la mélodie pleine de finesse et d'esprit du compositeur français Benjamin Godard. Et la cigale et la fourmi sans les paroles, ça donnerait quoi ? Minute papillon, j'y arrive. C'est que dans son ballet « Les animaux modèles », Francis Poulenc confie à l'orchestre le soin d'incarner tour à tour le lion, l'ours, le coq, ainsi que le duo qui nous intéresse. Mais si la musique est censée suivre la célèbre fable de La Fontaine, le compositeur prend cependant quelques libertés, puisqu'après s'être livré à une danse frénétique, la fourmi se met à jouer du violon avant de jeter l'instrument par terre et de claquer la porte au nez de la cigale. Il n'y a d'ailleurs pas que la cigale et la fourmi qui potinent. Il y a aussi le papillon et la fleur. C'est le sujet de la toute première mélodie composée par Fauré à l'âge de 16 ans. En voici une adaptation délicieusement méliflue par les 12 voix des King Singers. Le texte est signé Victor Hugo, s'il vous plaît. Et entre le végétal et l'animal, c'est toujours la même histoire. La fleur fleurit, le papillon papillonne. Et comme le dit la fleur au papillon avec un brin de tristesse, tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore. Ah, oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes.
La pauvre fleur disait ton papillon céleste, ne fuis pas. Vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons seuls les hommes, et loin d'eux, et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes. L'air t'emporte et la terre m'enchaîne. Sors cruel. Je voudrais emporter ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi des fleurs sans ombre. Vous fuyez. Je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore. Nuit railleur, aux cimes
trouves-tu toujours à chaque aurore tout en pleurs?
Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi, prends comme moi la cime ou donne-moi des ailes comme à toi.
Et maintenant, un petit tour du côté du XVIIIe siècle. Après tout, quoi de plus approprié qu'un clavecin pour faire la puce ? Les sons pincés de l'instrument n'incarnent-ils pas à merveille un animal de compagnie sympathique, mais parfois un peu trop attachant ? Nous écoutions La Puce de Joseph Bodin de Boismortier, un compositeur de la première moitié du XVIIIe siècle, dont vous aurez, je l'espère, apprécié l'humeur piquante et sautillante. Maintenant, je suis vraiment excité comme une puce, moi. D'ailleurs, à propos de puce, il y a aussi celle de La Damnation de Faust de Berlioz. Ça se passe dans une cave de Leipzig, remplie d'étudiants buvant et chantant sans retenue et sans masque, j'en ai bien peur. Méphistophélès fait son entrée, suivi de Faust, et entame à la demande générale une chanson populaire. Ironique, un brin dédaigneux, Méphisto choisit de nous raconter une invraisemblable histoire de prince tellement attaché à sa puce qu'il lui fait confectionner toute une garde-robe en velours et en soie.
Une puce gentille chez un prince logeait, comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure, par son tailleur un jour, lui fit prendre mesure pour un habit de cour. L'insecte plein de joie, dès qu'il se vit parer, d'or de velours de soie et le croix décoré, fit venir de province ses frères et ses sœurs, qui parlent du prince, d'un frère grand seigneur. Mais ce qui fut bien dire, c'est que les chants de cour, sans oser rien dire, se grattaient tout le jour. Cruelle politique, oh, plaignons leur destin, et les cules nous piquent, et
les trois couplets de la chanson de la puce, une saillie théâtrale dans laquelle on retrouve toutes les qualités de Berlioz. Humour truculent, orchestration virtuose, l'un et l'autre parfaitement servis par le baryton belge Jules Bastin et le London Symphony Orchestra sous la direction de Sir Colin Davis. Passons maintenant aux orthoptères, un ordre qui comprend principalement les sauterelles, les criquets et les grillons. On n'a jamais aussi bien décrit un grillon avec autant de tendresse que l'écrivain Jules Renard qui, dans ses Histoires naturelles de 1894, en fait une sorte de ménagère maniaque tout entière dédiée à ses travaux domestiques. Ravel se saisira de ce texte une dizaine d'années plus tard pour en faire l'une de ses plus étonnantes mélodies. Une merveille de délicatesse, une horlogerie fine aux sonorités cristallines, limitant l'accompagnement du piano au registre aigu. Et quand c'est Jacques Herbillon qui interprète cette mélodie, on fait silence. On l'écoute nous parler de l'un des plus fascinants représentants du royaume des insectes.
C'est l'heure, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. Ses étroites allées de sable. Il fait du brin de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps il tourne sa clé dans la serrure délicate. Point d'alarme au dehors, mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaîne de dont la poulie grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune.
Avez-vous déjà dîné avec une araignée ? Je vous pose la question, car nous allons maintenant écouter deux courts extraits du magnifique ballet d'Albert Roussel, Le festin de l'araignée. C'est l'œuvre la plus connue de cette grande personnalité de la musique française, qui a notamment eu pour élèves, excusez du peu, Edgar Varèse et Éric Satie. En écoutant cette féerie animalière haute en couleurs, on imagine, un peu comme dans le film Microcosmos, les combats sans merci que se livrent quotidiennement les différentes familles d'insectes pour assurer leur survie. Et voici une colonne de fourmis, tout affairée à transporter un gigantesque pétale de rose.
Thank you.
Un peu plus loin dans l'œuvre, l'araignée entre en scène pour une danse énergique à grand renfort de timbales et de trompettes. Deux extraits du ballet d'Albert Roussel, Le Festin de l'araignée, interprété par l'Orchestre national des Pays de la Loire sous la direction de Pascal Roffet. Un ballet qui ne se termine pas très bien pour l'araignée, puisqu'elle est finalement dévorée par une mante religieuse. Pas facile la vie chez les insectes. D'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose. Une araignée, ça n'est pas un insecte. D'abord parce que son corps n'est constitué que de deux parties, il y en a trois chez les insectes. Ensuite parce qu'elle est dotée de 8 pattes, quand les insectes n'en ont que 6. Alors 6 pattes, j'ai vérifié, c'est bien le cas du grillon, à qui Josquin des Prés, sans aucun doute le compositeur le plus célèbre de la Renaissance, a consacré une chanson au cours de laquelle les chanteurs imitent en quelque sorte son étonnante stridulation.
Sempre il grillo sta pur sano, quando la maggio torre il canto, allor canta sol per amore. Quando la maggio torre il canto, allor canta sol per amore. Il grillo, il grillo è buon cantor,
c'était le fameux grillon de Josquin des Prés, véritable tube des ensembles vocaux et des chorales d'amateurs, ici chanté par le Hilliard Ensemble. Et pour rester du côté des orthoptères, ces insectes aux pattes postérieures sauteuses, rejoignons maintenant Prokofiev. C'est qu'après avoir observé d'un œil amusé des sauterelles, le compositeur russe a imaginé en 1935 une courte pièce pour piano, le cortège de sauterelles qui, me semble-t-il, reflète autant son propre amusement que les bonds de l'insecte. Youri Martinov jouait pour nous le cortège de sauterelles, un extrait des pièces enfantines de Prokofiev, un compositeur à qui les enfants doivent décidément beaucoup. Et figurez-vous que la même année, donc en 1935, le grand compositeur britannique Benjamin Britten met lui aussi la sauterelle en musique. Comme vous allez pouvoir le constater, le tableau est très réaliste. Petits sauts, brusques écarts, arrêts inattendus, c'est plus vrai que nature. C'était La Sauterelle, première des deux pièces d'insectes composées en 1935 par Benjamin Britten pour hautbois et piano. Mais je m'aperçois que je n'ai pas encore cité la hoboïste, Pauline Oesterreich. J'espère qu'elle ne prendra pas la mouche. Tiens, saviez-vous que l'expression « prendre la mouche » remontait au XIVe siècle? Elle fait référence aux mouches à bœuf, qu'on appelle aussi des temps. Leur piqûre contrarie les bovins, dont l'humeur devient alors ombrageuse, voire colérique. Et c'est en 1933 que Bartok écrit l'une de ses pièces pour piano les plus singulières, intitulée en français « Ce que la mouche raconte » et en anglais « Extrait du journal intime d'une mouche ». Trottinage, butinage, hésitation, tournicotis, libération et repos se succèdent, incarnés par un étonnant contrepoint à deux voix qui ne dépasse presque jamais la nuance piano. J'ai souvent joué ce morceau et j'imaginais à chaque fois le trajet d'une mouche entrée par la fenêtre, se posant furtivement sur un meuble, zigzagant dans le salon. Je vous propose d'écouter Bartok lui-même jouer sa pièce, un bel enregistrement d'archives. Grand merci à la discothèque de Radio France de conserver de tels trésors. La qualité sonore n'est certes pas idéale, mais quelle émotion d'écouter ce grand compositeur nous livrer en personne les confidences d'une mouche. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est donc Béla Bartok en personne qui jouait sa composition « Ce que la mouche raconte », un extrait de ses microcosmos pour piano. Ce qui est drôle lorsqu'on entend cet enregistrement de 1940, c'est de penser que la plupart des pianistes n'osent pas faire de rubato dans les œuvres de Bartok, alors que le compositeur ne s'en prive pas. Alors si la mouche de Bartok est particulièrement réaliste, c'est nettement moins le cas de celle d'Offenbach dans le fameux duo d'Orphée aux Enfers. Il faut dire que la mouche n'est qu'un des nombreux avatars de Jupiter qui a pris cette apparence pour mieux séduire Eurydice. La drôlerie de la chose réside dans l'alternance de paroles et d'imitations du zzz caractéristique de la mouche en train de voler. Nathalie Dessay et Laurent Naouri bourdonnaient à qui mieux mieux dans cet extrait d'Orphée aux Enfers d'Offenbach. Et puisque nous en sommes à bourdonner, je vous propose de voir ce que cela donne lorsque tout un orchestre s'y met avec une pièce signée Vaughan Williams. Vaughan Williams, au Royaume-Uni, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs britanniques, inhumé à Westminster aux côtés de Purcell et de Handel. À l'âge de 37 ans, quelques mois après avoir profité des précieux conseils de Ravel lors d'un séjour en France, il compose l'une de ses premières œuvres symphoniques. Une musique de scène pour la pièce de théâtre d'Aristophane, Les Guêpes, satire de la démocratie athénienne et du système des tribunaux populaires. Les jurés y sont en effet assimilés à des guêpes, piquant les accusés de leur aiguillon. On les entend bourdonner dans l'ouverture avec des trilles en crescendo et décrescendo rapide, la harpe et les cors se chargeant des coups de dard. Mais revenons maintenant aux hémiptères. Vous savez, cette catégorie d'insectes qui regroupe notamment les puces, les pucerons et les cigales. Pour Emmanuel Chabrier, compositeur français de la deuxième moitié du XIXe siècle, que Debussy, Ravel et Satie considéraient comme leur figure tutélaire, la cigale est l'insecte chantant par excellence. En témoigne sa fameuse mélodie « Les cigales » dans laquelle la main droite fait inlassablement entendre la stridulation caractéristique de nos chers hémiptères. Tout le génie de Chabrier éclate dans cette pièce composée en 1889 qui me donne à chaque fois l'impression d'entendre les cigales et de respirer l'odeur de la lavande.
Le soleil est droit sur la sente, l'ombre bleuit sous les figuiers, s'écrit au loin multiplié, c'est midi qui chante. Sous l'astre qui conduit le cœur, les chanteuses dissimulées jettent leurs rogues ululées qu'elle a fatigable cœur. Les cigares, ces messieurs, ont plus d'âme que les violes. Les cigalons chantent mieux que les violons. S'en donnent-elles les cigares sur les tas de poussière gris, sous les oliviers rabougris, étoilés de fleurettes pâles et grises, de chanter ainsi, elles font leur musique folle, et toujours leur chanson s'envole des touffes du gazon roussi. Les cigares, ces bestioles, ont plus d'âme que les violes. Les cigales, les cigalons chantent mieux que les violons. Aux rustres épars dans le chaume, le grand astre torrentiel, à large flot du haut du ciel, verse le sommeil et son baume. Tout est mort, rien ne bruit plus qu'elle, toujours les forcenés, entre les notes égrenées de quelque lointain angélus. Les cigales, ces messieurs, ont plus d'âme que les violes. Les cigales, les cigalons chantent mieux que les violons.
Quelle diction, quelle subtilité dans la voix. Nous écoutions le grand baryton français Camille Morane nous expliquer que les cigales, ces bestioles, ont plus d'âme que les violes et que les cigalons chantent mieux que les violons. Alors, si certains raffolent du chant des cigales tandis que d'autres ne le supportent qu'à petite dose, une chose est sûre, tout le monde déteste le bruit du moustique. Quand vous essayez de dormir et qu'il tournoie au-dessus de votre tête, c'est énervant, n'est-ce pas? Eh bien, en musique, ça pourrait donner à peu près ça. Étonnant, non? C'était La danse du moustique de Béla Bartok, un duo de violon interprété avec un réalisme stupéfiant par Sender Weg et Alberto Lisi. Alors en québécois, moustique se dit maringouin. Bon, bien sûr, ça ne les empêche pas de tourmenter la Bolduc. La Bolduc, vous connaissez? Mais si, la célèbre chanteuse québécoise qui a égayé les années 20 et les années 30 avec ses chansons comiques et populaires. Elle écrit et compose elle-même, joue de l'accordéon, de l'harmonica, de la guimbarde et du violon. Mais sa grande spécialité, c'est la turlute. Vous savez, ce scat québécois où l'on fait rouler des onomatopées sur un rythme rapide. Tadlidum, tidulida, tam tidulidlam. Mais la turlute n'empêche malheureusement pas les maringouins de persécuter leur proie.
Je suis allé me promener à la campagne pour le thé. Je vous dis, j'en ai arraché, les maringouins m'ont tout mangé. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait une belle façon. Sont venus au devant de moi et c'était comme une procession. Les L'arègue, ouais, c'est une bébite, faut se gratter quand ça nous pique. Je vous dis, c'est bien souffrant, c'est sans profit que le mal aux dents. J'ai les jambes pleines de piqûres, c'est comme un vrai morceau de fourrure. J'ai la peau tout enlevée, c'est parce que je me suis trop gratté. Mais partout où est-ce que j'allais, les maraigues me suivaient. Je courais tellement fort que j'en avais des bosses dans le corps. Quand j'allais voir la vieille canard, il pourroyait jusqu'au hangar. Il était tellement enragé qu'il m'ont presque dévoré. Le soir après, j'étais couché autour de ma tête, il venait chanter. Voilà que j'allume la lampe, puis je commence à les courroyer. Il n'a avec sa lancette qui s'en vient sur ma jaquette. Mon mari à mes côtés, il vous dit qu'il a pas manqué. Deux mois après, j'étais contente, blanc de train. Mais pour m'en débarrasser, mon bidon de bois puis mon chéquier. Quand mes amis m'ont vu, ils ne me reconnaissaient plus. J'avais le nez presque mangé, puis le visage tout boursouflé.
Faut se gratter quand ça nous pique, c'est 100 fois pire que le mal aux dents. J'ai la peau tout enlevée, c'est parce que je me suis trop gratté. C'était l'inimitable Madame Bolduc qui nous chantait Les Maringouins, un enregistrement de 1930. Alors les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué qu'au cours de cette émission, je ne vous aurais jamais parlé des coléoptères. Oui, mais comme cette famille représente à elle seule plus d'un tiers des espèces d'insectes connues, je me suis dit que vous auriez sûrement l'occasion d'en croiser un prochainement. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Pierrick Charles. À la semaine prochaine.